I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Bah, Déborah et Mathieu, nous voici réunis pour cette réunion en petit comité. Entre nous, comment allez-vous?
Ça va?
Ouais, ça va.
Parfait. On est un peu tous malades, je crois, mais écoutez, on va faire avec.
Oui,
là.
Ça uniformise comme ça.
Voilà, absolument. On a tous des voix bizarres aujourd'hui, c'est parfait. Donc, l'idée de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on trouve une manière intéressante de parler d'animation. Et je vois déjà le visage de Déborah s'illuminer. Parce que bah, déjà, si on le fait pas, Déborah va finir par péter un câble à un moment donné, parce qu'elle a besoin de parler d'animation. On rappelle que c'est quand même notre spécialiste à la rédac de l'animation. Mais aussi parce que ce serait dommage qu'on laisse de côté tout un pan de l'histoire du cinéma qui est justement souvent mis de côté comme étant un genre en soi, un peu un genre à part, et qui est pas mal boudé par les circuits habituels de l'industrie, vous trouvez pas? Surtout les festivals notamment, parce que, non mais je pense par exemple au festival d'Annecy, le fait qu'à Annecy tous les ans ils disent que c'est fou le fait qu'ils soient obligés d'exister en parallèle des autres festivals de cinéma parce que l'animation n'est pas inclue dans les autres.
Oui, ce sera encore une réunion et un sujet à part à traiter sur la méchanceté dont l'industrie fait preuve avec l'animation. Donc oui, rien qu'encore au dernier César et Oscar, j'ai râlé à peu près 1000 fois sur le fait qu'un film d'animation ne peut pas concourir pour le meilleur film ou ce genre de truc. Ça cloisonne vraiment beaucoup trop et... Non, c'est moche. Juste c'est moche.
Ouais, je suis d'accord. En période de récompense, on se remet une petite claque à chaque fois en se disant... Putain, c'est vrai qu'ils considèrent vraiment ça comme un truc à part, quoi.
Pour les enfants.
Pour les enfants, souvent. Et finalement, j'ai l'impression que c'est dans les plus petites manifestations qu'ils ne font moins les choses à part, justement.
Ouais.
Je pense à beaucoup de festivals de fantastique auxquels on va souvent tous les deux, Judith, où ils mettent souvent de l'animation dans la compétition avec le reste des films. Et il n'y a aucun problème, et ça passe très bien. Et des fois, ils gagnent, et des fois, ils ne gagnent pas, parce que la question, c'est est-ce qu'ils sont bons ou pas. La technique, on s'en fout.
Ouais, voilà, exactement. Donc, pourquoi ce mépris de la part des autres festivals peut-être plus investis? Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire une réu sur tout ce qui tourne autour de l'animation, parce que, évidemment, c'est un sujet énorme. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on appelle animation? Parce que l'animation en soi, évidemment, alors on est d'accord pour dire que c'est en gros les films dans lesquels il n'y a pas des vrais gens à l'écran, mais il y a énormément de manière en fait d'animer un film, d'animer des personnages. Donc à quoi est-ce qu'on peut penser? Donc il y a l'animation qu'on dit traditionnelle, donc des dessins faits sur celluloïde en gros.
Ouais, par Disney en gros, ce qu'on appelle le style Disney 2D avant le passage à la 3D quoi.
C'est ça, bah, donc il y a effectivement l'animation numérique en 3D qui est prédominante maintenant. Il y a aussi des effets de collage, le papier découpé et du coup la stop motion.
Bien évidemment.
Oui, c'est intéressant parce que, enfin, moi personnellement, moi je sais que j'adore la stop motion, mais je pense que vous aussi, connaissant un peu vos goûts, vos sensibilités, etc., je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est un sujet qui vous passionne un peu aussi.
Toi comme moi, Mathieu, toi aussi, Judith, on avait Mad God dans notre classement des meilleurs films, dans notre top des meilleurs films l'année dernière.
Absolument.
Et j'avais aussi Interdit aux chiens aux Italiens. Et j'ai failli mettre Marcel et le coquillage sur ses chaussures là.
Ah oui, donc oui, un gros sujet stop motion du côté de Déborah. Effectivement, je me rappelle qu'avec Mathieu et moi, on avait vraiment adoré Mad God.
Ouais, absolument. Au-delà de ça, dans la stop motion en général, il y a quelque chose d'un peu tendre. On a tendance, je trouve, à être très très tendre envers les films qui sont faits en stop motion parce que c'est des films dont tu vois le travail mais directement sur l'image.
Oui.
Et c'est assez agréable. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un côté aussi un peu nostalgique parce qu'il y a beaucoup de films qu'on adore tous qui sont en stop motion, notamment les Hardman, hein, pour ne pas les citer. Et donc, cher à mon cœur et cher au cœur de beaucoup de gens, je pense, cette technique est très très appréciée, même si finalement elle n'est pas tant que ça représentée.
Sur le mot de nostalgie, genre, je trouve aussi que ça se ressent énormément parce que, je sais pas vous, mais est-ce que quand vous étiez gamin, vous aviez déjà pris un caméscope pour commencer à faire parler des nounours ensemble, à faire des premiers pas de stop motion après avec du montage et tout. Genre, il y a vraiment le côté genre personnage, enfin personne qui joue avec ses petites figurines, qui les met en scène. Genre, il y a quelque chose de très ludique et ouais, de tendre en fait derrière.
Moi, j'ai mis en scène un court métrage où un jouet Lego ménuclé avec un compas sur un air de The Prodigy.
Incroyable. Voilà. On veut le voir. C'est mon top 2000.
Il est encore sur mon ordinateur. Voilà. Si vous êtes sage.
Ah bah ouais.
Voilà. Si un jour on fait un Ulule et on passe le palier des 14 millions d'euros, je le mettrai sur YouTube.
Ouais, non, moi ce qui me fascine vraiment avec la stop motion, c'est vraiment cette espèce de vertige qui est créé par le fait que à l'écran on voit que ce qu'on voit n'est pas réel et pourtant la matière est réelle, donc il y a quelque chose qui permet d'y croire vraiment, d'y croire tout simplement, parce qu'on sent que c'est matériel ce qu'on voit en face de nous et pourtant c'est des personnages et des mondes qui ne sont pas en soi réels, et du coup en fait ça te fait croire comme n'importe quelle autre technique à justement la crédibilité, la matérialité de ce que tu vois à l'écran, et ça te plonge dans un univers tout de suite. Enfin, en tout cas moi je sais que c'est vraiment cet effet là qui m'a rendu complètement accro à L'Étranger de Monsieur Jack quand j'étais petite, quoi.
Ouais, tu vois la matière, quoi.
Ouais,
tu
vraiment
le grain,
les choses existent, quoi.
C'est
vraiment
ça, ouais.
C'est donc bref. Si on regarde bien, en revanche, donc si on regarde bien la stop motion comme technique, elle existe en fait depuis le début du cinéma. C'est ça qui est fou. En plus, c'est que c'est aujourd'hui c'est quelque chose d'assez niche, mais en fait c'est quelque chose qui est né en même temps que le cinéma. Parce que si je ne m'abuse, du coup les tout premiers films qui utilisent de la stop motion, même si on parle parfois de formats extrêmement courts, hein, comme forcément à la naissance du cinéma, ça date même d'avant 1900. Donc on est sur du tout petit bébé cinéma qui faisait déjà de la stop motion.
Bah oui, parce que la définition même de la stop motion, le stop motion, l'animation en volume, peu importe comment on le dit, justement, ça s'est fait au cours des années. Et les toutes premières formes de stop motion, en fait, c'est juste le fait de filmer image par image. Mm. Donc en fait, sur les tout premiers trucages en fait qu'il y a eu au cinéma, on peut remonter aux Frères Lumière, puis juste après... Améliès et tout ça.
Oui, alors c'est vrai que même, et notamment au début, parce qu'effectivement il y a énormément de pionniers qui ont essayé différentes techniques à l'époque, il faut peut-être rappeler un peu un instant ce qu'on appelle la stop motion. Effectivement, c'est le fait d'accoler des images petit à petit, et entre chaque prise, entre chaque photo, entre chaque photogramme, de bouger un petit peu l'élément qui va être de la pâte à modeler, qui va être un objet inanimé, etc., pour ensuite accoler ces images et donner l'impression qu'il va bouger. C'est vraiment un peu reproduire le principe du cinéma, sauf que au lieu de bouger soi-même, on bouge des objets, quoi. Voilà. Donc là où je dis qu'il y a beaucoup de personnes différentes qui ont tenté des choses différentes, c'est que par exemple le premier court-métrage qui est considéré plus ou moins comme étant le dessin animé sur support argentique, c'est un truc qui s'appelle Humorous Faces of Funny Faces, donc qui est réalisé en 1892 par J. Stuart Blackton. Mais alors donc là, effectivement, le réalisateur anime sur un tableau noir à la craie des visages qu'il va dessiner petit à petit et effacer et redessiner pour leur faire changer d'expression et pour raconter une histoire. Mais donc ça, on peut... Il y a discussion sur est-ce que c'est de la stop motion ou pas. C'est plutôt du dessin animé. Mais en tout cas, J. Stuart Blackton, co-réalisé avec Albert Smith en 1898, a quand même réalisé donc The Humpty Dumpty Circus, qui lui pour le coup est censé être le premier film de stop motion vraiment animé par en stop motion, avec pour le coup non pas des personnages en pâte à modeler mais des insectes morts, voilà, donc ça me dégoûte rien que d'en parler. En revanche, c'est un lost media, donc malheureusement on ne peut plus voir aujourd'hui ce film là il n'en reste que quelques photos, mais voilà, c'est à peu près là qu'on date, on va dire, la naissance de la stop motion telle qu'on la connaît aujourd'hui en tant qu'effet, quoi.
Ouais, en règle générale je pense qu'il est bon de spécifier que les films pré-années 30 et plus globalement les films muets de l'époque, étant donné le support sur nitrate qui a souvent été banni, etc., il y a beaucoup, une immense majorité de ces films ont été perdus. Alors il y en a beaucoup dont on sait qu'ils ont existé grâce à des traces ou, comme tu dis, des images qu'on a retrouvées. Mais certains ont été perdus à jamais, donc potentiellement il y a eu beaucoup d'autres expérimentations. Et mais
oui,
encore une fois, on peut parler de ce dont on a les traces.
C'est ce qui reste, quoi.
De ce qui reste, voilà.
Ou de ce qui a été décrit, ouais, justement.
Oui, voilà, a posteriori, quoi.
Parmi les autres pionniers, on peut citer aussi Segundo de Chomón, donc un réalisateur espagnol qui a été engagé, si je ne m'abuse, par Pathé en France, justement pour concurrencer Méliès qui lui faisait ses expérimentations de son côté. Donc Segundo de Chomagne réalise des choses comme La Maison Ensorcelée et Le Spectre Rouge, donc il fait un peu des films d'horreur, on va dire, de l'époque. Et du coup, ouais, effectivement, est-ce que Méliès, lui, il a fait de la stop motion pour qu'on ait besoin de le concurrencer à côté comme ça?
Bah, si on parle de stop motion comme on en parle actuellement et qu'on calque vraiment la définition qu'on a actuellement, je pense pas, non, parce que ça restait encore du trucage, en fait, genre les balbutiements du trucage. Mais il s'agissait bien, par contre, de filmer de l'image par image pour substituer une image à une autre et créer un effet un petit peu surnaturel. Où là, ouais, non, c'était quand même plus des effets spéciaux que de l'animation, parce qu'il s'agissait pas vraiment d'insuffler de la vie à un objet, comme on a vu genre bien après avec les 1000 cours qui ont été faits sur des jouets qui prennent vie dans l'imagination d'un enfant endormi, vraiment ce qu'on imagine comme étant la stop motion aujourd'hui.
D'accord, ouais, alors du coup à la même époque il y a aussi Elena Smith Dayton qui est la première animatrice américaine de l'histoire du cinéma, et d'ailleurs peut-être la première animatrice tout court, et justement elle commence par faire ses animations en stop motion avec des personnages en argile, donc c'est aussi quelque chose qui date d'il y a très très longtemps, la tradition de faire des personnages d'argile quoi. Et donc parmi ces pionniers il faut évidemment citer, et là on va s'arrêter sur son cas bien sûr, sur Willis O'Brien, qui est donc un homme, un artiste qui est d'abord dessinateur puis sculpteur dans sa vie, mais qui, un jour, se met à faire des petits essais en pâte à modeler, des petits essais d'animation. Jusqu'à ce que, bah, en fait, il réalise un premier court-métrage, justement, de stop-motion, qui s'appelle The Dinosaur and the Missing Link, en 1917. Donc le dinosaure et le chaînon manquant, on va dire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Edison, donc Edison, le monsieur de l'électricité, et ben il voit ce court-métrage, il est impressionné par ce court-métrage et par cette nouvelle technique qui se développe. Il décide de commander à Willis O'Brien plusieurs courts-métrages justement de stop motion sur le thème de la préhistoire.
Bah, The Dinosaur and the Missing Link, d'ailleurs, la plupart dont on parle là, ils sont disponibles en fait sur YouTube. Hein, la plupart, ils peuvent être vus sur Internet directement, gratuitement. Et il y a quand même un truc qui m'a fait trop rire dans The Dinosaur and the Missing Link là, c'est que bon, à un moment, t'as un couple homme et femme préhistorique, et puis t'as la femme préhistorique qui passe le balai dans la caverne. J'ai trouvé ça absolument incroyable, que genre t'as tout l'imaginaire préhistorique qui s'ouvre à toi, genre de nouvelles sociétés, de nouvelles façons de penser et tout, mais que tu quand même, genre, la femme préhistorique passe le balai dans la caverne.
Oui, c'est important de le rappeler, c'est important de véhiculer, voilà, le mythe fondateur. Donc, ce qui est marrant, justement, à partir de ce moment-là, parce que du coup, Edison engage spécifiquement Willis O'Brien pour raconter des histoires de dinosaures, pour faire un focus sur une période préhistorique. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'au départ, la stop motion sert principalement au cinéma à, justement, à faire des dinosaures, à animer des dinosaures. C'est fou, un peu, cette passion, parce que plus tard, elle aura servi à représenter des aliens, des monstres, des spectres en tout genre. Mais cette époque, c'est les dinosaures, quoi.
Bah, c'est vrai que à cette époque-là, enfin, entre vraiment, on va pas parler de naissance du cinéma parce que y en a qui remontent aux peintures rupestres, tu vois, pour parler de naissance du cinéma. Donc, je pense que c'est quand même un petit peu flou où ça commence. Mais sur vraiment la démocratisation du cinéma et l'espèce de fascination qu'il y a pour les dinosaures, ça vient vraiment en même temps. Et justement, en préparant la réu, j'étais tombée sur cette date en 1900, début des années 1920. Il y a eu une découverte de dinosaures en Mongolie qui, visiblement, a redonné tout un élan à cet imaginaire préhistorique qui existait déjà avant les dinosaures. On savait qu'ils existaient déjà depuis un moment, mais ça a relancé cette espèce de fascination pour le monde des dinosaures. Et oui, à moins de filmer des lézards en gros plan pour les faire passer pour des dinosaures ou...
Ce qui est arrivé, hein.
Oui.
on avait parlé dans la réu sur les dinosaures, on s'est tapé des trucs, pff, voilà, gros plan sur des iguanes, au bout d'un moment, t'en as marre.
Oui, rajoute une crête à l'iguane, ouais. Comme ça, genre, pour faire plus dangereux. Bah ouais, pour recréer des dinosaures, à moins de faire version animée en 2D comme Gertie le dinosaure, bah ouais, en fait, tu passes par des créatures en pâte à modeler que t'animes seconde par seconde, image par image, pour donner l'illusion du mouvement.
Puis je pense qu'au-delà du fait que culturellement, il y a vraiment quelque chose avec les dinosaures à ce moment-là, ça leur évite aussi de faire quelque chose qui n'est pas tant répondu à l'époque, c'est-à-dire de faire du design. Mmh. Les dinosaures, on sait à quoi ils ressemblent, plus ou moins, tu vois, dans l'imaginaire.
Ouais, plus ou moins à l'époque, mais...
Plutôt moins que plus. Mais je veux dire, il y a quand même un imaginaire collectif visuel qui s'est créé autour de la figure du dinosaure, qui est... C'est très facile de piocher dedans, c'est presque une franchise avant l'heure de toute façon. Oui. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que l'engouement autour des dinosaures à ce moment-là, il y a vraiment quasiment un effet de franchise avant l'heure, quoi. tu vas voir le dinosaure parce que c'est la grande saga des dinosaures et tu aimes les dinosaures et tout le monde aime les dinosaures. Là où les aliens, bon d'ailleurs le gros pic de science-fiction ça a plutôt les années 50, donc
ouais.
on est encore un peu avant quoi. Mais oui, il faut imaginer une civilisation extraterrestre et mine de rien, au balbutiement comme ça de la technique, c'est un peu compliqué.
Oui, oui, absolument. Bah, ouais. Bah, et d'où que en 1925, Willis O'Brien va donc connaître une étape dans sa carrière puisque il va être engagé pour réaliser les effets spéciaux du film Le Monde Perdu, non pas celui de Spielberg évidemment, mais celui de Harry O. Hoyt. Et donc pour ce film, O'Brien réalise donc les effets spéciaux et les dinosaures en utilisant des maquettes plus sophistiquées que ce qu'il avait fait jusque-là, où justement il était resté sur des dinosaures un petit peu en argile, parce que là il se met à travailler avec le sculpteur Marcel Delgado, qu'il a enfin réussi à convaincre de travailler avec lui, parce qu'au départ Delgado n'avait pas envie de faire du cinéma, il voulait rester voilà dans son atelier de sculpture, mais O'Brien avait très envie de travailler avec lui. Et donc l'apport de Delgado sur le travail de Willis O'Brien, ça va être de créer des maquettes qui sont plus grosse, mais avec des armatures en métal, avec aussi à l'intérieur des poches qui permettent de simuler la respiration, par exemple. Alors c'est vrai que sur les films de l'époque, c'est pas toujours voilà, le rendu est pas d'une finesse telle qu'on puisse discerner tous ces détails, mais malgré tout, on commence à avoir quand même des maquettes qu'on la gueule, quoi. Enfin, ça commence à vraiment ressembler à des dinosaures, etc. Et je trouve que très rapidement, on arrive sur une qualité d'animation et de rendu qui est pas si éloigné de ce qu'on arrive à faire en stop motion maintenant. C'est-à-dire que c'est une technique qui, malgré tout, je trouve, a trouvé un aboutissement sous sa forme finale très tôt, en fait, dans son histoire, je trouve.
Bah, on peut citer, je pense, King Kong.
Oui, du coup, effectivement, complètement. King Kong, bah, là, pour le coup, c'est le nouveau, la nouvelle étape dans la carrière de Willis O'Brien. Et pour le coup, on arrive sur quelque chose qui est une révolution en soi, non seulement dans l'histoire de la stop motion comme effet spécial, mais aussi dans l'histoire du cinéma tout court. D'ailleurs, c'est là, je pense qu'on peut commencer à dire que la stop motion, on est d'accord que il y a toute une histoire de cette animation en tant qu'effet spécial et toute une histoire de la stop motion comme étant le médium principal, une technique d'animation, voilà. Alors du coup, si on part sur Willis O'Brien, on va peut-être d'abord commencer par parler de la stop motion comme effet spécial, justement, parce que sinon on va pas s'en sortir, je pense. Mais du coup, King Kong, donc réalisé en 1933 par Marianne C. Cooper et Ernest B. Shostak, putain.
Je t'aurais respecté si t'avais absolument... Non, enfin, je te respecte quand même, mais je t'aurais encore plus respecté si tu l'avais dit d'une traite.
Donc, effectivement, King Kong est réalisé en 1933, et donc qui est réalisé et produit par Marianne C. Cooper et Ernest B. Shostak. C'est vraiment l'avènement de la collaboration entre O'Brien et Marcel Delgado, parce que c'est l'aboutissement de la technique stop-motion telle qu'on la connaîtra plus tard, parce que là, cette fois-ci, il s'agit pas simplement de faire un plan sur un personnage en argile, puis un plan sur un acteur, ce genre de choses. Là, il s'agit vraiment de faire interagir des personnages en stop-motion et des personnages joués par des acteurs. C'est pour ça qu'on arrive à, du coup, l'invention de systèmes d'incrustation, où on se retrouve avec des séquences où, en fait, l'héroïne de King Kong, du coup, elle se retrouve face au singe qui est devant elle et qui est absolument immense et qui a des interactions avec elle, en fait, ce qui était complètement impensable avant ça.
Absolument, il y a plusieurs niveaux dans le décor d'avant et d'arrière-plan. Parce qu'il y avait déjà un poil d'incrustation, on va dire, dans Le Monde Perdu, qui était déjà impressionnant pour l'époque, mais avec King Kong, il passe un énorme cap. Et vraiment, la jungle environnante, elle vient complètement entourer les personnages et King Kong qui interagissent dans le même plan. Et de toute manière, King Kong est devenu un symbole de ça, en ça que l'interaction principale du film, c'est un singe géant qui attrape une fille, en fait. Et mine de rien, c'est une totale révolution qui va d'ailleurs donner le la de ce qu'on considère comme un effet spécial compliqué par la suite, c'est-à-dire non pas modéliser en soi l'effet, mais le faire interagir avec des vraies personnes, ce qui est mine de rien archi complexe. Et encore aujourd'hui, avec les technologies numériques, on en voit les limites. Enfin, je veux dire, des fois, vous voyez des trucs hyper bien modélisés, et tout d'un coup, quand ils commencent à toucher des humains, vous faites « Oh !»
Oui, c'est ça.
Et donc là, ouais, ils ont réussi à attraper ça. Et ouais, King Kong, bon bah, au-delà de la maestra technique du film, qui, bon, n'est plus... On en avait déjà parlé aussi à l'époque, des dinosaures.
Oui, c'est vrai.
Bon, tout le monde sait que King Kong, c'est génial. On le revoit aujourd'hui, le truc, il a presque 100 ans et il est toujours aussi spectaculaire.
Ouais.
Mais au-delà de ça, je pense que son impact culturel a eu un vrai... Enfin, c'est difficile à estimer en réalité. Autant d'ailleurs ici qu'au Japon, puisque le succès du film aussi au Japon va inspirer ensuite le Kaiju Ega, etc. Qui d'ailleurs, faute de capacité technique de faire de la stop motion, vont finir par faire de la stop motion, comme on dit. La shoot motion, pardon. Donc des gens dans des costumes. Et bah d'ailleurs, chose qu'on a accusé d'ailleurs King Kong de ce procédé, si je dis pas de bêtises, ils ont dû se défendre d'avoir fait de la vraie stop motion. pour dire à quel point c'était impressionnant.
C'est flatteur quand même. Oui, quand t'es obligé de dire non, non, on l'a vraiment fait image par image, il n'y a personne dans le costume.
Et voilà, oui, je pense que King Kong, pierre angulaire de l'effet spécial en règle générale, et qui prouve que du coup, à une certaine époque, la stop motion, c'est l'effet spécial par excellence. C'est le top du top de l'effet spécial, quoi.
Oui, c'est ça. C'est la techno, c'est une technologie de pointe. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est une sorte de plan B, plan C, plan D. Ouais. Ça dépend de ce que, comment on l'envisage, etc. Mais c'est pas, en tout cas, c'est plus la technologie, une technologie d'avant-garde, quoi. À l'époque, c'était complètement le cas. Et effectivement, du coup, le public s'est laissé surprendre par ça parce que il était pas du tout habitué à voir ce genre de choses, d'où qu'il a effectivement, enfin, que beaucoup de gens ont pensé à un acteur en costume, alors qu'en fait, il y a que quelques plans sur lesquels Kong est un peu filmé de manière plus resserrée, où là, du coup, ils ont eu affaire à une maquette plus grosse, mais du coup, pas entière du singe, où là, il était vraiment animé en direct, du coup, par plusieurs personnes. Justement, apparemment, c'est des plans qui se remarquent bien dans le film parce que ils sont, l'animation est beaucoup plus lisse, évidemment, que l'effet saccadé stop motion, qu'on adore par ailleurs, mais voilà. Donc ouais, le film est un gros succès, et d'ailleurs, O'Brien, du coup, continuera à travailler sur la suite Son of Kong qui est sorti la même année d'ailleurs, donc c'est dire s'ils étaient
prolifiques. Oui, qui a eu des problèmes de production, c'est une histoire à part entière.
D'accord, on fera un jour une review sur Son of Kong.
Absolument.
Et d'ailleurs, en fait, c'est tellement impressionnant comme travail que un Oscar est offert à Willis O'Brien, sauf que il refuse d'ailleurs de récupérer son Oscar parce qu'il aimerait quitte à être récompensé qu'en fait l'entièreté de son équipe soit récompensé et que chaque technicien est une statuette. Donc c'est quand même, c'est très généreux comme move. C'est très humble aussi, mais voilà, l'Académie refuse de délivrer une statuette à tout le monde. Donc Willis O'Brien refuse tout simplement son Oscar.
Alors qu'il aurait dû l'accepter, la fondre et faire des petits cubes.
C'est vrai, voilà.
Moi, je serais lui, j'aurais fait ça.
C'est vrai. Donc voilà, finalement, pas d'Oscar pour Willis O'Brien, mais l'intention est quand même là. Et donc, O'Brien continue de travailler jusque dans les années 50, donc sur comme superviseur des effets spéciaux en stop motion. Mais on va dire que King Kong reste quand même vraiment le pinacle de sa carrière. C'est un peu voilà à la fois le premier long métrage qui a eu un tel succès qu'il a fait. En même temps, il n'aura jamais dépassé ce succès-là tellement. Bah voilà, tellement c'était une étape importante. Et en plus, c'est vraiment bête, mais le fait qu'il ait refusé un Oscar fait que le monde du cinéma considérera que c'est un mec qui se la joue un peu, et du coup le mettra un peu au banc. Et c'est quelqu'un qui aura du mal à développer ses projets par la suite et à être crédible aux yeux de l'industrie parce qu'il aura refusé son Oscar par solidarité avec son équipe.
Alors que c'était un peu punk comme geste.
Bah ouais,
genre aujourd'hui, on a quand même une bien meilleure perception de ce geste-là, en mode non, j'ai pas travaillé sur ce film tout seul, il y a toute une équipe moi, vous récompensez tout le monde ou personne.
Ah ouais, non mais stylé. Hein. Mais d'ailleurs, enfin, O'Brien, on n'est pas là pour parler de sa vie privée, mais pas facile sa vie, hein, parce qu'il a quand même connu des drames familiaux, genre son ex-femme qui a tué son fils ou un truc comme ça. Enfin, il était... Et puis ensuite, sa nouvelle femme qui est morte de je sais plus quoi. Enfin, bref. On est sur une vie pas super fun. Heureusement qu'il a su se réfugier dans les gros singes et les dinosaures parce que. Mais donc du coup, si lui n'a pas connu d'autres succès plus importants que King Kong, ce qui est très important, c'est que finalement, il a quand même été le mentor du prochain pape de la stop motion, Ray Harryhausen pour le coup.
Ah oui, là je prends la main parce que
j'adore
son travail. Mais c'est trop mignon quand tu imagines vraiment la scène, même si j'imagine qu'il y a une part de storytelling là-dedans, mais Ray Harryhausen a découvert King Kong de 1933 quand il avait 13 ans à Hollywood. Et évidemment, comme n'importe quelle personne de l'époque, il a été complètement fasciné et il a développé une obsession pour les effets spéciaux et notamment la stop motion. Et mais en fait, ce qui est vraiment fascinant dans la stop motion ou même le cinéma en général, c'est que tu retrouves vraiment quelques noms clés qui ont tous tourné les uns avec les autres, qui se sont influencés. Et ça a aussi été le cas de George Pal. Ray Harryhausen a beaucoup travaillé avec George Pal, qui est un Hongrois qui a été naturalisé américain et qui a participé à l'exportation de courts-métrages en stop motion aux États-Unis et tout ça. Donc encore tout un autre pan de cette histoire-là, mais qui s'est aussi formé à ses côtés et aux côtés de Frank Capra. Voilà.
Ah. Ah oui, il y avait pas un truc du style, il a pas genre servi dans l'armée sous les ordres de Frank Capra ou un truc comme ça.
Il était dans l'armée, il en a profité pour faire des documentaires et je crois que c'était avec Frank Capra. Je sais pas si c'était sous sa supervision.
OK.
Mais en tout cas, il en a profité pour faire des images et faire des documentaires en fait.
Ouais, plutôt bien épaulé du coup.
Ouais, voilà. Et ensuite, il a collaboré pour la toute première fois avec Willie O'Brien pour Monsieur Joe. Donc c'est un film avec un autre gorille, mais cette fois juste à taille normale. Il a été embauché en fait avec d'autres personnes et très vite il s'est distingué. Et c'est lui qui a fait l'essentiel de l'animation donc en stop motion de ce gorille-là. Et ensuite il a vraiment monté en grade à partir de ce film-là. Et Ensuite, évidemment, sa première grande œuvre, ça a été Le Monstre des Temps Perdus, en 1953, où pour ça, il a carrément créé un nouveau concept de stop motion. Je sais pas s'il faut le dire en français ou version anglais, mais dynamation, s'il fallait le dire bien dans la française, et dynamation, pour le côté un peu plus classe américain.
Dans la classe américaine.
Donc là, évidemment... La stop motion, que ce soit en passant par l'argile, par tout un tas de trucs, évidemment, c'est court-métrage après court-métrage, artiste après artiste, parfois certains avant d'autres, qui en fait ont tellement expérimenté qu'ils ont créé plus ou moins des codes. Et lui, il l'a refait avec ce principe-là, où le but, c'était vraiment de faciliter l'immersion et l'interaction entre les personnages fictifs et les vrais personnages, les vrais acteurs, pardon. Et donc le principe, comme il l'a lui-même décrit, pour le décrire le plus simplement possible, c'est de prendre en sandwich l'objet animé entre deux couches d'images réelles, avec évidemment tout un procédé de cage, de miroir, de machin, de ci, de là. Mais en fait, le but, c'était tout simplement de pouvoir faire passer plus facilement au premier plan ou au second plan l'objet animé. Donc encore plus perfectionner la technique du stop motion, faire en sorte que ce soit encore plus crédible et surtout ouvrir le champ des possibles narrativement, de se dire bon bah là, on n'est plus cloisonné à tel type d'histoire parce que là, en fait, on peut faire absolument, bon, pas tout ce qu'on veut parce que c'était quand même assez limité, mais on peut faire bien plus de choses qu'avant et bah oui, là, ça ouvre tout un champ de possibles. Et du coup, bah, c'était un véritable terrain de jeu pour n'importe quel superviseur des effets visuels ou réalisateur.
Mais d'ailleurs, il a eu beau jeu de s'accrocher. Il l'a bien fait parce que, si je m'abuse au départ, donc, comme tu le disais, O'Brien, c'était un peu son héros quand il était jeune. Il a réussi par le rencontrer, par, je crois, l'intermédiaire d'un ami ou je sais pas quoi, d'un pote qui lui a fait prendre un pot avec.
Il avait l'air déter, hein, quand même, comme gars.
J'imagine, ouais.
Voilà, avant même qu'il soit majeur, il s'était fait une espèce de petit studio chez lui et tout. Genre, tu sais, c'est un peu les jolies histoires de j'ai fait mon cours étudiant quand j'avais, voilà, 16 ans, machin. Ça ressemble un petit peu à ça.
La success story américaine. Mais du coup, je crois, la première fois qu'ils sont vus, O'Brien, il dit, écoute, t'es mignon, mais par contre, tes maquettes, elles sont pas ouf pour et que du coup il l'a poussé à prendre des cours d'art plastique pour se perfectionner.
Non, c'est beau, moi j'aurais pleuré, j'aurais tout abandonné.
Il y avait deux manières possibles de réagir et il a choisi la bonne. Voilà. Je sais pas toi, Mathieu, ce que tu penses un peu des films animés par Ray Harryhausen en termes d'effets spéciaux.
Comme beaucoup de gens, je trouve que c'est un peu... c'est vraiment l'âge d'or peut-être du médium à une époque où il n'est pas encore menacé par d'autres techniques et où c'est resplendissant. Même en étant relativement jeune... quand je regardais Sinbad quand j'étais gosse, j'adorais, sans même vraiment mettre les mots dessus. Et justement, comme tu dis, le côté très saccadé de l'animation qui, mine de rien, relativement assumé chez Harryhausen, c'est vraiment un mec qui assume son effet.
Et il veut le cultiver.
Exactement.
C'est au-delà de l'assumer, il veut vraiment le cultiver.
C'est ça. Car il aime ça, en fait. Il aime ça.
Bah d'ailleurs, il me semble, c'est parce que moi, une scène que je trouve absolument terrifiante, parce que du coup, un peu comme vous, j'ai vu mes premiers films animés par Harryhausen quand j'étais gamine. Ça m'a énormément marqué. Donc, Jason et les Argonautes, le choc des Titans, la vallée de Guanji, enfin, c'est vraiment des trucs petits. Ça m'a fasciné. Et encore une fois, voilà, cet effet étrange dont je parlais tout à l'heure de quelque chose qui est matériel et qui pourtant n'est pas censé pouvoir exister. Et je me rappelle la scène de Talos dans Jason et les Argonautes. Elle est terrifiante, celle de la statue géante de bronze qui descend de son socle pour chasser Ulysse et compagnie. Vraiment, là, pour le coup, c'est une scène où typiquement, Ray Harryhausen a fait en sorte justement de, comme vous le disiez, travailler l'effet de saccade, parce que là, donc, il s'agit de faire en sorte qu'une statue géante de bronze bouge. Donc, il fallait pas la faire, pour rendre compte de sa taille un peu et de sa matière, surtout de métal, il fallait pas justement que son animation soit trop lisse. C'était pas l'intérêt. Et donc là, justement, typiquement dans cette séquence, le fait que l'animation de cette statue soit très saccadée, et encore une fois, c'est joliment fait, parce que saccadé, ça a tout de suite quelque chose de, comment dire, de péjoratif quand on le dit. Mais là, c'est pas le cas. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est conscient et qui est travaillé comme ça. Ça ajoute vraiment à la terreur de la situation et de la séquence.
Oui, aussi, je pense que c'est un des animateurs qui a vraiment mis le métier d'animateur et de créateur d'effets spéciaux au cœur de la culture générale, de l'imaginaire collectif, en composant notamment des moments de bravoure qui sont vraiment devenus estampillés Harryhausen, plus d'ailleurs que le réalisateur du film. Je pense évidemment à la scène des squelettes dans Les Hommes, qui est devenue légendaire, parce que là, tu sens qu'ils se sont vraiment mis derrière une table et qu'ils se sont dit comment on va faire la séquence de stop motion la plus dingue que tu as jamais vue de ta vie, en fait. Et ils l'ont fait, je sais plus combien de temps ça a pris, c'est complètement sidérant comme truc. Et ouais, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, cette séquence, encore une fois, elle a influencé au-delà du cinéma, d'autres médiums. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de squelettes pourris dans les jeux vidéo s'il n'y avait pas eu la séquence dans Jason et les Argonautes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Non mais c'est clair que cette séquence elle est assez folle. De mémoire, il y a 7 squelettes et chaque squelette avait 35 articulations.
Ah là là. Alors, là
ce qui est juste énorme. Ouais. Et en fait, vu qu'ils interagissent directement avec les acteurs, ça a demandé un travail préparatoire de malade mental parce que tous les acteurs devaient en fait mémoriser chaque
les
geste.
Les chorégraphies.
Et,
ouais.
Voilà. Et donc, pour que ce soit plus lisible et plus clair dans leur tête, du coup, ils ont fait des répétitions où ils ont fait appel à des cascadeurs pour prendre la place des squelettes et ensuite tout rejouer et tout. Enfin,
quel casse-tête.
Oui, vraiment, genre, il n'y avait pas le souci de l'économie ou du... Enfin, si, il y avait le souci de l'économie, mais pas du temps d'effort, quoi.
Alors vous, je sais pas, mais moi, il y a une séquence parmi celles animées par Ray Harryhausen, parce que le film que j'ai beaucoup vu quand j'étais gamine, c'était Le Choc des Titans. Et là, typiquement, c'est pareil, tout ce qui est... Enfin, toutes les créatures, aussi bien le kraken que l'espèce de vautour ou de furie qui vient enlever le bébé à un moment donné et tout. Tout ça, c'est vraiment dans des séquences dans lesquelles le style, la texture stop motion m'a beaucoup marqué et a vraiment ajouté de l'horreur à ce que je voyais à l'écran. Mais la séquence la plus dingue pour moi, c'est celle de Méduse. Méduse dans le labyrinthe, ouais. Là, c'est... Pouf. Et là, pour le coup, c'est pareil. Il me semble que Ray Harryhausen considérait que c'était une séquence qui était vraiment l'aboutissement aussi de son art. Parce que là, il y avait tellement... Il y avait tous les serpents qu'elle a sur la tête à animer. Il y avait ses yeux, il y avait du coup sa queue de serpent à sonnette. Il y avait... Enfin, bref, et le rendu est absolument dingue. Et en fait, en plus, la manière dont Méduse arrive dans le labyrinthe, je crois qu'il y a quasiment pas de musique. On entend un peu son souffle et peut-être bien le bruit de sa queue, je me rappelle plus. Mais et elle arrive comme une ombre découpée un peu sur le mur. Enfin, je trouve ça à la fois terrifiant et magnifique, cette séquence. Franchement, c'est... Pff, mon amour du cinéma est là, quoi.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ironique dans cette séquence, du fait que sa créature soit une créature qui immobilise les personnages en face. Donc il y a un peu, il y a un côté un peu mordant, on va dire. Et je trouve qu'il y a toujours ce côté parfois un peu amusé qu'il a avec son art, ou pareil, les squelettes, le fait qu'on voit à travers, etc. C'est vraiment une manière de s'approprier complètement le concept de l'animation, et de le porter sur un pinacle pour quasiment l'intégrer dans la narration, en fait. Et ça fonctionne trop bien.
Bah justement, avant, Harryhausen et donc son producteur Charles H. Schneer, je pense que j'ai massacré son nom, avant de travailler à Hollywood, et ils se sont ensuite éloignés d'Hollywood, justement parce qu'ils avaient un petit peu trop l'impression de faire des films prétextes pour utiliser la stop motion et les effets spéciaux. Et ils avaient plutôt envie... de se lancer dans des récits dont la narration et juste l'univers se prêtaient et légitimaient l'emploi d'effets spéciaux. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire pas mal de films sur la mythologie, notamment. Même si, évidemment, ils ont continué à faire des films avec des dinosaures. Mais ils étaient plus dans cette idée de vouloir, légitimer les effets spéciaux comme quelque chose de narratif et pas juste une simple technique, gadget devant laquelle... c'est sympa de regarder, mais au final, ça te raconte quoi sur le film, sur l'histoire? Et c'est ça qu'ils avaient vraiment envie de mettre en avant. Et je trouve ça beau.
Bah d'ailleurs, ça se sent vraiment dans la manière dont ils développent leurs créatures, vraiment comme... c'est-à-dire qu'ils impriment vraiment des émotions et des personnalités à des créatures qui ne sont pas que bêtement des monstres, quoi. Il y a vraiment des moments d'émotion qui sont réservés à ces créatures. Et un travail sur les expressions vraiment du visage.
Le cyclope de Sinbad, notamment.
Voilà, le cyclope de Sinbad.
D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a aussi reçu un Oscar d'honneur en 92. Bon, cette fois qu'il a accepté, il a été légèrement moins punk que son mentor. Et d'ailleurs, Tom Hanks avait dit un super beau truc qui était « Certains disent Casablanca ou Citizen Kane. Moi, je dis que Jason et les Argonautes est le plus grand film jamais réalisé. » Voilà pour toute la reconnaissance de ce qu'il a apporté.
Reconnaissance méritée.
Exactement.
Et j'ajouterais que Vraiment se plonger dans ces films donne à un visionnage de Monstres et Compagnie une saveur particulière. Parce que j'ai l'impression que tous les monstres de Monstres et Compagnie sont plus ou moins influencés par l'œuvre d'Ari Aulnay.
C'est vrai, c'est vrai.
De leur design à leur couleur,
ouais.
En passant même parfois par la manière dont ils se, dont ils se déplacent.
Mmh. Ah, c'est marrant, j'avais jamais tellement repensé à ça.
Il y a Méduse et clairement, Bob et la plupart des gros monstres sont vraiment des créatures ariosoniennes.
Putain, mais maintenant que tu le dis, ça me paraît tellement évident.
Moi, j'avoue, j'y avais jamais pensé avant, j'avais jamais capté.
Incroyable.
J'ai jamais su si c'était une inspiration revendiquée de la part... Enfin, si il y avait une interview de quelqu'un qui disait que c'était l'inspiration première, mais pour moi, c'est... ça crève les yeux.
Génial, ce soir, du coup, je vais devoir regarder Monstres et Compagnie.
Corvée,
hein.
Mais bon, après, par contre, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà, la carrière de Ray Harryhausen s'est retrouvée un petit peu, malgré tout, dépassée, on va dire, par de nouvelles techniques, même si on aurait voulu que le cinéma en reste pour toujours à la stop motion. Ce ne fut pas le cas, parce que petit à petit, il y a quand même d'autres techniques qui ont commencé à concurrencer, du coup, cette technologie. Notamment l'arrivée un peu de concert entre les animatroniques et les effets numériques.
Oui, avant, je tiens quand même à préciser qu'en parallèle des expérimentations de Harryhausen, il y en a eu d'autres dans l'Europe de l'Est qui sont bonnes de mentionner, je pense, qui ont été beaucoup exhumées dans les années 80, notamment en Occident. Et il y a un film dont j'avais déjà parlé dans la réunion sur les dinosaures que j'aime beaucoup, qui s'appelle Voyage dans la préhistoire, qui date de 1955, et qui a l'avantage justement d'avoir une approche de ses effets spéciaux extrêmement différente de celle de Harryhausen. Il n'y a pas ce côté expressif, parce que les dinosaures, parce que c'est des dinosaures du coup, qui sont présentés, sont vraiment animés comme des animaux, mais à un point troublant. Et donc, bon, c'est un truc très éducatif, avec des enfants qui remontent une sorte de rivière, et ils remontent le temps, quoi, et ils tombent sur des dinosaures, et vraiment, ils mâchonnent comme tu trouves une vache dans un pâturage, quoi. Et c'est bluffant, c'est vraiment une vision de la stop-mo qui est assez unique, je trouve, personnellement. Mais oui, à partir des années 70-80, avec la fin du nouvel Hollywood, etc., les animatroniques arrivent en force, donc les animatroniques, des effets spéciaux qui sont... Ben c'est des moteurs, enfin des mécaniques, quoi, qui dans du caoutchouc ou n'importe quelle matière, qui permettent de créer des créatures, des bras, des trucs, ce que tu veux. Et c'est en train, non pas complètement de prendre le pas sur la stop motion, mais en train de devenir une technique de plus en plus prégnante, et souvent, c'est des techniques qui doivent collaborer. Alors, y a vraiment une... Je pense pas qu'on puisse dire une concurrence... mais notamment chez Spielberg par exemple, qui adore les animatroniques, c'est un truc qui va se développer. Et alors moi, il y a un exemple que je trouve assez évident, qui est Terminator. Terminator, bon, vous voyez la dernière partie du film, le truc explose, climax à la Cameron, classique, le Terminator sort et il est en métal complètement. Très audacieux pour un film qui n'a pas coûté beaucoup d'argent à l'époque. Et Cameron voulait en faire de la stop motion. Mais c'est Stan Winston, donc légende absolue de l'animatronique, justement, qui l'a convaincu de plutôt aller sur du 80% d'animatronique. Et donc, le climax de Terminator comporte de la stop-mo, mais c'est vraiment un alliage avec beaucoup d'animatronique. Et Jen Whareham, qui est donc le visual effects supervisor du film, a avoué par la suite que Stan Winston a probablement fait économiser 6 mois de post-prod à Cameron avec ce choix. Et c'est vrai que bah, c'est un peu le problème de la stop-mo, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et vu que les blockbusters américains deviennent de plus en plus ambitieux, eh bien, l'animatronique, ça devient beaucoup plus aguicheur tout d'un coup, quoi. Alors, la stop-mo sur Terminator, elle a été supervisée par quelqu'un qui s'appelle Doug Beswick, et c'était quand même un truc assez dingue. Hein. C'est une statuette de 100 pièces individuelles. Et il aura fallu 2 semaines rien que pour l'assembler.
Oh là là.
Sachant que c'est quand même un truc à préciser, à partir de cette période-là et même avant, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui doivent être accomplis avant le tournage, parce qu'il y a des incrustations des personnages dans le tournage. Quand Kyle Reese, il ouvre la bouche en grand parce qu'il voit le Terminator à s'avancer par lui, eh ben, il faut que l'effet spécial soit déjà fait avant. Donc, ils ont dû faire tout ça avant que ce soit tourné. C'est un travail assez impressionnant. Et c'est quelque chose qui va vraiment se développer au cinéma. L'autre gros exemple, c'est évidemment Star Wars. Et impossible de ne pas parler d'un homme qui est... un peu le troisième dans la lignée des grands noms de la stop-mo, qui est donc Phil Tippett, qui donc s'est fait connaître en premier pour avoir animé la section avec les échecs dans le premier Star Wars. Il y a des genres de monstres qui se tapent dessus, des monstres qui ressemblent beaucoup à des créations de Harryhausen. Et c'est pas pour rien, parce que comme Harryhausen avait fait ses armes devant les films de Willis O'Brien, Phil Tippett a grandi devant Harryhausen et il voulait faire pareil. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Bah oui, parce que si je dis pas de conneries, Phil Tippett, il a aussi démocratisé un procédé de stop motion, la Go Motion.
Absolument.
Qui a un nom un peu moins stylé que Dynamation. Mais la Go Motion qui, si encore une fois je dis pas de conneries, était censée un petit peu justement lisser l'effet saccade entre ouais. chaque plan et donc en fait faire l'inverse de ce que voulait cultiver Harryhausen et de rendre ça beaucoup plus organique.
Absolument. Ouais, l'approche de Tippett, étant donné que lui il a vraiment bossé avec des effets qui sont complètement fondus dans les films, est beaucoup plus réaliste, on va dire, entre guillemets. Et donc lui, oui, il veut se débarrasser d'un truc qui est ce fameux effet saccade. Et à quoi il est dû cet effet saccade? Au manque de ce qu'on appelle souvent le motion blur. En France, je crois qu'on dit flou cinétique. C'est joli. C'est-à-dire, bah, c'est pas compliqué. Hein. Quand on filme quelqu'un qui court, et bah, c'est flou. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, en réalité. Mais quand on anime quelque chose image par image, on voit que c'est trop net. Quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et donc, alors, c'est pas le premier à se poser la question. Hein. On parlait des précurseurs. Il est souvent dit que Ladislas Stavérych, qui est donc le russo-polonais qui a fait...
C'est Starevich. Parce que je me disais, mais on dit pas Sterwich. Genre, ça n'a aucun sens. Il est russe. Starevich.
Donc voilà, lui qui a été parmi les précurseurs de la stop motion, on en parlera à la prochaine revue d'ailleurs, il me semble, je pense. Non lui, bah voilà, lui était directeur d'un musée d'histoire naturelle, on lui a demandé de faire des films. Il voulait faire un combat d'insectes, il s'est rendu compte que ses lampes allaient cramer les insectes. Du coup, il s'est dit, je vais plutôt les prendre déjà morts et remplacer leurs pattes par des fils de fer et les faire en stop motion.
Le cauchemar de
l'art. Et lui, déjà à l'époque, il s'était rendu compte que c'était plus réaliste s'il bougeait la table en dessous pour donner cet effet de flou. Alors bon, c'est très rudimentaire, mais ça a été fait plusieurs fois. Sur Terminator, ils ont aussi essayé de le faire, mais cette fois-ci, ils ont tartiné l'objectif de vaseline, voilà, et qui nettoie et retartine et il nettoie à chaque plan pour donner un effet de flou autour. Et c'est pour ça que Terminator, ça fonctionne aussi bien.
Incroyable.
Voilà. Mais Phil Tippett, lui, il a vraiment poussé le truc au maximum, surtout sur son premier vrai gros film, parce que bon. Le premier Star Wars, ça reste une séquence en fait à l'échelle d'un film. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que cette séquence soit dans le film puisque George Lucas lui-même est un grand fan de Harryhausen et la séquence est évidemment un hommage à Harryhausen. Et c'est Star Wars 5. Donc là, on est plus sur la petite série B. Énorme budget, énorme séquence, notamment énorme séquence d'intro. Et là, sur les fameux AT-AT, donc les gros drones qui, pas les drones du tout, non, les genres de gros chiens mécaniques qui avancent sur Hoth là dans la planète de glace, ainsi que sur les Tauntauns, donc les genres de trucs organiques. Alors c'est hyper intéressant d'ailleurs que ce soit à la fois des machines et des êtres vivants finalement. Sur ces trucs là il expérimente un système de moteur extrêmement complexe qui va donc lui appeler la Go Motion et qui va devenir vraiment une norme hein, pour faire de bons effets en stop mo. Et la suite de la carrière de Tippett, elle est hallucinante. Alors moi je trouve qu'il y a une date qui est assez amusante dans la transition, on va dire, c'est 1981, parce que la même année sort Le Choc des Titans, donc qui est la dernière œuvre de Harryhausen, qui est une sorte d'accomplissement absolu de sa carrière, et sort aussi Le Dragon du Lac du Feu, donc Dragon Slayer en VO, film Disney, bon, qui s'est planté, mais qui est connu pour avoir un dragon qui est parmi les plus beaux que le cinéma a proposé. D'ailleurs, on a fait un dossier sur le sujet sur le site, et ça n'a pas marché du tout, donc je le replace. Mais voilà, c'était l'œuvre de Tippett, et vraiment là... Là, il y a du step-up, là. Là, on est... Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est extrêmement bien dans le cadre. On le voit. Enfin, c'est impressionnant, d'autant que les animatroniques, justement, dans ce film, sont aussi spectaculaires. Donc, il y a cette volonté de faire une forme de transition. Donc, voilà. Là, la stop-motion, elle devient un peu partout et nulle part, en fait. C'est très difficile de dire. On pourrait, en fait, prendre plein de films différents et pointer du doigt. Je pense notamment à Evil Dead, qui, mine de rien, a beaucoup d'effets stop-motion. Et là, c'est un peu par économie, finalement, parce que, voilà, ils ont fait un film avec rien. Et bon, hyper ironique d'ailleurs, l'effet qui était hyper complexe a été parmi ceux qui ont été censurés par le comité quand il est sorti en premier, donc des effets de Tom Sullivan. Et donc il a fallu attendre plusieurs années avant de voir les effets gore en stop motion de Evil Dead, qui rajoute un cachet indéniable évidemment au film.
Bien sûr. Mais du coup, parce que tout à l'heure tu évoquais Spielberg, finalement, c'est un peu lui qui, vers cette période, a un peu enfoncé le dernier clou dans le cercueil de la stop motion.
Plus ou moins, parce que de base, il était prévu que les dinosaures sont en stop motion, et au final, comme racontait Mathieu, il a été convaincu de l'inverse, mais il a pas non plus renié l'animation image par image dans le film, qu'il a quand même confié à des animateurs parce qu'il savait que eux avaient la capacité de rendre quelque chose de bien. Enfin, ça faisait des années qu'ils faisaient ça, ils savaient qu'ils avaient totalement le talent pour le faire et qu'ils étaient tout à fait légitimes à animer des dinosaures.
Ouais, on a souvent minimisé la, le pouvoir qu'a eu Phil Tippett sur Jurassic Park, mais c'est incroyable. Enfin, à l'époque, les effets numériques, c'est une idée, hein, rien de plus. Lui, il est là, il fait des tests, et on a surtout retenu la réplique de Phil Tippett. Enfin, c'est une anecdote qui est devenue célébrissime au point qu'elle est dans le film, du coup, ils l'ont implémenté dans les dialogues, où il dit « Now I've become instinct », donc j'ai été... je sais pas comment on pourrait traduire, je suis éteint, quoi, comme les dinosaures à une époque, où il se rend compte que les effets pratiques, bah, c'est fini, parce que là, il y a le numérique qui arrive. Mais en réalité, les effets spéciaux numériques ont pris de plus en plus de place dans le processus de fabrication de Jurassic Park. Ils sont dus à Tippett, car lui, il a créé une machine qui s'appelle le DID. Alors, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est une sorte de machine qui reproduit, en fait, la technique stop motion, les mouvements qu'ils ont fait en stop motion dans un environnement numérique. Donc, les dinosaures en CGI de Jurassic Park ont encore en eux une ADN stop motion. C'est plus ou moins des dinosaures de stop motion numérique. Il y a une transition qui se fait dans ce film. C'est pas juste un arrêt net. Bon, il y a eu ensuite le même avec le Dinosaur Supervisor dans le générique avec « Damn it, Phil, you had one job ». Tout le monde s'en est moqué. Mais ouais, il a eu un rôle hyper important et oui, bon, évidemment, Phil Tippett restera à jamais lié à ce moment où le numérique a pris le pas sur le pratique. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Je pense aussi, par exemple, à The Thing, parce qu'il y a une grosse séquence en stop motion dans la première version de The Thing, qui a été réalisée notamment par Randall William Cook, et qui a été coupée en immense partie, c'était le gros monstre à la fin, parce que Carpenter trouvait que ça... En fait, les effets pratiques étaient trop bons. Pour que ça vraiment ça match quoi et en fait dans les années 90-80 on est toujours un peu dans ce côté bah il faut que ça passe, il faut que ça assimise, que ça rentre, et donc il y en a des très bons mais ça reste parfois un peu compliqué. Alors moi je pense qu'une des plus grandes participations de Tippett, ça reste évidemment Robocop, et plus encore Robocop 2 qui a un antagoniste absolument mémorable en termes d'animation et de design et tout ce que vous voulez. Mais ouais, du coup c'est une période assez particulière mais que je trouve moi du coup d'une richesse ahurissante, parce que franchement, des années 70, 80, 90, les gens retiennent souvent le côté effet pratique, mais finalement, ce qu'on retient, c'est un mélange de techniques hallucinant, une inventivité de tous les instants. Là où, à une époque, on appuie sur le bouton stop motion et transparence, et aujourd'hui, on appuie sur le bouton CGI, à l'époque, ils appuient sur tous les boutons, quoi. C'est pour ça que ces films sont aussi impressionnants aujourd'hui, je trouve.
C'est vrai. J'avais quand même aussi un petit peu envie de citer, mais alors c'est pour mon plaisir personnel, mais Beetlejuice aussi, comme héritier, on va dire, de Harryhausen et tout, parce qu'il y a quand même cette séquence assez folle avec, du coup, le serpent qui est animé en stop motion et qui, du coup, est complètement, enfin, fait aussi complètement penser justement aux effets de Harryhausen et de ce que Tim Burton a fait dans Vincent en 82. Mais donc, bref, après avoir dit tout ça, finalement, qu'est-ce qui reste de la stop motion comme effet spécial aujourd'hui? Encore une fois, aujourd'hui, on a parlé de la stop motion comme effet spécial spécifiquement, parce que son utilisation relève désormais d'un choix particulier, original, et donc surtout comme médium principal, justement, plutôt que comme effet spécial. C'est pour ça que je propose qu'on ne parle pas aujourd'hui de la stop motion comme médium principal, justement, comme méthode d'animation principale, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais qu'on se réserve ça pour la réu de la semaine prochaine. Et donc là, on pourra parler de nos films en stop motion qu'on aime, les Henry Selick, les Burton, les ceci, les cela, et pas que, bien sûr. Bon, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses pour aujourd'hui. Il faut dire que la stop motion, comme on l'aura compris, c'est quand même un gros morceau, et surtout une technique d'animation dont l'histoire est indissociable du progrès du cinéma en général, et donc de la paléontologie. Là, on a retracé un peu l'histoire de la stop-mo comme effet spécial, comme apport supplémentaire, on va dire, à la prise de vue réelle, à travers notamment donc l'histoire de deux géants que sont Willis O'Brien et Ray Harryhausen. Mais avec tout ça, on n'a même pas encore commencé à aborder toute l'autre histoire de la stop-motion, c'est-à-dire celle évidemment des films de stop-motion, faits entièrement en stop-motion, ou presque entièrement en tout cas. Bah du coup, je vous propose qu'on aborde ça dans la rue la semaine prochaine, si ça vous va. Merci Déborah et Mathieu, ça fait plaisir de se dire qu'avec un sujet pareil, il y aurait vraiment de quoi faire un podcast. Et évidemment, si c'est le cas, bah il faudrait toujours rappeler à nos potentiels auditeurs de s'abonner, de laisser 5 étoiles, des gentils commentaires, etc., etc., pour qu'on puisse continuer. Mais bon, d'ici à ce qu'on mette ça vraiment en place, on a le temps de voir venir. Enfin bref, à la semaine prochaine.
À la semaine pro.
Hi. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.